Crédit immobilier, le prêt longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité, soyez les bienvenus. L'antenne vous appartient. Nous sommes à 4 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar et ce sera l'occasion tout à l'heure de débattre ensemble sur les nombreux appels au boycott lancés ces dernières semaines par des associations mais aussi par des personnalités. Boycotter le mondial pour dénoncer le non-respect des droits humains, les conditions de travail des ouvriers mais aussi les conséquences écologiques de la compétition. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de boycott sportif, puisque toutes les sélections qualifiées seront bel et bien au Qatar. En tout cas, ce mondial suscite un malaise. Alors dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes à quelques jours du démarrage de ce mondial. Allez-vous suivre la Coupe du Monde ou au contraire, avez-vous décidé de renoncer à regarder les matchs pour exprimer justement votre désapprobation? On en parle donc ce matin, 33 9 693 693 70. Et comme tous les jours, je lirai quelques-unes des réactions reçu sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook RFI, appel sur l'actualité. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Vous avez suivi tout à l'heure, ce matin, en direct, le décollage de la nouvelle méga fusée de la NASA. C'est le programme Artemis, direction la Lune. Bonjour Amidou.
Bonjour.
À Conakry, en Guinée, et vous avez des questions justement concernant ce programme lunaire de la NASA.
Oui, j'avais des questions, mais la première question est déjà répondue.
Ah.
Parce que la fusée a déjà décollé.
Oui, elle a décollé, donc, effectivement. Avec un peu voilà. De retard, mais finalement, elle a décollé.
Voilà. Merci. Après plusieurs reportages de décollage de l'Artemis, de la fusée, la méga fusée Artemis 1, ayant pour but de préparer les prochaines missions vers la Lune, la NASA a lancé la fusée ce matin.
Oui.
Avec un vol inhabité. Oui. La question maintenant, c'est quand est-ce, la fusée inhabitée, quand est-ce l'homme remarchera-t-il sur la Lune?
Ah, quand l'homme remarchera-t-il sur la Lune? Bonne question. Vous savez quoi? Qui de mieux placé que l'envoyé spécial de RFI au Centre spatial de Cap Canaveral, en Floride, pour vous répondre? Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous en direct, Simon Rosé. Je le disais un instant, ça a été compliqué, mais la troisième tentative a été la bonne.
Oui, bah après, c'est la fusée la plus puissante jamais mise au point. Donc forcément, pour un vol inaugural, c'est pas simple. Ce sont des systèmes qui sont complexes. Il a fallu plusieurs tentatives. En plus, la météo n'a pas aidé ici en Floride, puisqu'il y a quand même deux tempêtes tropicales qui ont un peu compliqué les choses. Mais elle est partie avec un petit peu de retard ce matin. Elle devait partir à 1h04 du matin ici. Ça a été 40 minutes plus tard. Mais elle a mis à feu ses moteurs, ses propulseurs d'appoint à poudre. Elle a fait beaucoup de bruit. Elle s'était lancée très vite dans le ciel et elle est... Et la capsule Orion qui se trouve à son sommet, l'équivalent des capsules Apollo des années 70, est désormais en route vers la Lune. Donc tout se passe très bien.
Ouais, alors les liaisons téléphones ne sont pas très bonnes avec Cap Canaveral. Il faut dire que tous les téléphones fonctionnent en ce moment sur place et nombreux sont les correspondants justement à intervenir en direct sur les nombreux médias qui suivent cet événement planétaire. Simon Rosé, à l'instant, Amidou voulait savoir, alors je ne sais pas si vous avez la réponse, quand est-ce que l'homme remarchera sur la Lune? L'idée, c'est effectivement d'aller sur la Lune, mais pas tout de suite, il va falloir encore patienter.
Ce sera pour la mission Artemis 3. Il y aura d'abord la mission Artemis 2, où ce sera en gros la même mission qu'aujourd'hui. On verra la capsule Orion faire un tour de Lune et rentrer sur Terre, sauf que cette fois, il y aura des astronautes à bord. Ce sera un peu l'équivalent d'Apollo 8, pour ceux qui s'en souviennent, une sorte de répétition générale. Ce sera pour Artemis 3 que deux astronautes américains, une femme et un afro-américain, poseront le pied sur la Lune. Le calendrier officiel, c'est 2025. On doute fort que ce soit tenu parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment le véhicule qui permettra l'atterrisseur lunaire. Il n'existe pas encore. Les combinaisons spatiales qui vont leur permettre de sortir, marcher sur le sol lunaire ne sont pas prêtes encore. Donc le calendrier 2025 semble un peu optimiste, mais... Ouais, d'ici la fin de la décennie, ça c'est sûr, on verra à nouveau des êtres humains marcher sur la Lune. Et a priori, la NASA l'a annoncé, ce sera une femme et un Afro-Américain qui poseront en premier le pied à nouveau sur la Lune.
Bon, il faudra que ça marche, hein, puisque quand on voit l'investissement total de la NASA, plus de 90 milliards de dollars pour ce nouveau programme lunaire. Merci infiniment, Simon Rosé, d'avoir été avec nous en direct de Cap Canaveral avec voilà, un petit problème de liaison de téléphone, mais on a compris l'essentiel. Amidou, 2025, donc le retour de l'homme sur la Lune.
Merci beaucoup.
Et bonne journée à Conakry.
Merci de l'information.
Voilà, vous avez l'information et on est là pour ça, pour vous informer. Merci, bonne journée à Conakry.
Merci.
Vos questions 33 9 693 693 70. Bonjour Emery.
Juan, bonjour et je salue tous les auditeurs de la RFI.
Et merci de nous appeler de Kinshasa. Vous avez des questions concernant les livraisons d'armes à la République démocratique du Congo pour lutter contre les groupes rebelles.
Effectivement, Juan. Alors, depuis la semaine dernière, une livraison d'armes à destination de la RDC n'a toujours pas eu lieu. Juan, comment expliquer que ces transports n'aient pas pu se rendre en RDC?
Ah, bonne question, effectivement. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères en a d'ailleurs parlé il y a quelques jours. Il a même dénoncé, je cite, un embargo qui ne dit pas son nom. Bonjour, Patient Ligodi. Ah, décidément, un petit problème de communication avec Kinshasa. On va rétablir la liaison, évidemment, avec notre correspondant sur place, d'autant que cette affaire défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Et c'est, une fois de plus, l'occasion pour beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'internautes de dire que la RDC est sous embargo, que cet embargo empêche le pays de s'équiper en armes pour lutter contre les groupes rebelles, et notamment contre le M23, alors que les choses soient claires, officiellement, il n'y a pas d'embargo. Mais comme le disait il y a quelques jours le ministre Christophe Lutundula, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, c'est un embargo qui ne dit pas son nom. On va tout vous expliquer avec Patient Ligodi. Êtes-vous là, Patient? Patient Ligodi, décidément. Que se passe-t-il?
D'abord, il n'y a que tout.
Alors, Patient, est-ce que vous nous entendez?
Je disais...
Vous nous entendez, Patient? Décidez.
Ça va beaucoup mieux.
Alors, Emery plantait le décor à l'instant. Il parlait de ces équipements militaires qui sont toujours bloqués. Que sait-on sur cette livraison déjà?
D'abord, il n'y a que très peu d'informations sur cette livraison d'armes. On ne sait pas à ce stade d'où venait la cargaison et quel transporteur l'aurait bloqué. Cependant, ce n'est pas la première fois. Il est déjà arrivé que des banques, des transporteurs et des fournisseurs refusent de traiter avec le gouvernement congolais dans ce secteur. Et cette situation est d'ailleurs connue de la communauté internationale. Dans son rapport de juin 2022, le groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC a noté que les institutions financières, dans un souci de diminution des risques, ont parfois refuser leurs services à des clients en lien avec l'achat de matériel militaire. Le groupe d'experts a qualifié d'ailleurs cette interprétation du régime de sanctions d'incorrecte, puisqu'en vertu des résolutions du Conseil de sécurité, la RDC est autorisée à acheter ou à recevoir officiellement du matériel et des formations militaires à condition que l'État fournisseur en notifie le comité. D'ailleurs, fin octobre, l'ambassade russe en RDC avait révélé que la Fédération de Russie avait procédé à une livraison gracieuse d'armes et munitions à l'armée congolaise en 2021 pour un volume de plus de 160 tonnes. D'autres documents révèlent d'ailleurs que des paiements sous une fausse appellation ont été faits par le gouvernement congolais pour s'approvisionner en armes, des documents bancaires comportant par exemple la mention acquisition des produits agricoles au lieu de matériel ou formation militaire sont cités dans le rapport des experts de l'ONU.
Effectivement. En tout cas, concernant le blocage de cette livraison, les autorités dénoncent, je cite, une injustice flagrante. Ce qu'on retiendra, c'est important de le préciser, et j'insiste là-dessus au regard des nombreuses réactions qu'on reçoit et les auditeurs qui s'expriment dans cette émission, qui sont convaincus qu'il y a un embargo sur les armes touchant la RDC. Vous le disiez à l'instant, Patient, la RDC est autorisée à acheter ou à recevoir du matériel à une seule condition, c'est que l'État fournisseur en informe le comité de sanctions des Nations Unies. Vous avez une autre question, Emery?
Effectivement, Rohan, dites-moi, alors est-ce que cette obligation de notification pourrait-elle être levée pour faciliter enfin l'achat des armes par la RDC?
C'est ce que réclament de nombreuses voix sur place, effectivement. Patient Ligodi.
Il faut d'abord préciser que ces notifications, selon l'ONU, servent à garantir que les équipements militaires envoyés à la RDC sont livrés aux seuls destinataires autorisés, à savoir le gouvernement, et non à un groupe armé ou à toute autre force déstabilisatrice. Toujours selon l'ONU, elle renforce également l'importance d'une surveillance attentive des équipements entrant dans le pays. Cette surveillance restant, selon les Nations Unies, il faut le dire, un outil essentiel pour prévenir les détournements des stocks nationaux à destination des groupes armés. De son côté, le gouvernement congolais dénonce, je cite, « une injustice inadmissible et un soutien déguisé au M23 qui se procure des armes sans déclaration ni notification au comité de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU ». En juin dernier, Georges Nzongula-Ntalaja, représentant de l'RDC aux Nations Unies, avait officiellement demandé au Conseil de sécurité le retrait total de ces dispositifs de notification et selon les chefs de la diplomatie congolaise, la demande est sous examen. Le gouvernement mène d'ailleurs un lobbying pour obtenir gain de cause, sollicitant aussi le soutien des pays africains.
À suivre donc, et on en parlera si vous le souhaitez tous ensemble vendredi dans la Libre Antenne, bien évidemment. Emery, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, je suis satisfait, merci.
Eh bien, tant mieux. Et un grand merci à Patient Ligodi, correspondant de RFI à Kinshasa, et encore toutes nos excuses pour la dégradation des réseaux téléphoniques. On repasse au standard, au 33 9 693 693 70. Et on va continuer à parler de la République démocratique du Congo avec une question concernant l'organisation de l'élection présidentielle, théoriquement dans un peu plus d'un an, au plus tard en décembre 2023. Bonjour Jean.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler de Lubumbashi. Soyez le bienvenu.
Merci.
On vous écoute.
Oui, ma préoccupation semble être comme ça. À partir du mois prochain, la RDC commencera son processus d'enrôlement électoral dans le cadre de l'élection présidentielle prévue en décembre 2023. Comment on explique que le gouvernement soit confiant dans l'enrôlement de toutes les provinces malgré les tensions dans l'est du pays? Ah. Est-ce qu'on en sait davantage sur le calendrier électoral prévu par la CENI?
Ah, bonne question. Effectivement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une opération cruciale qui va commencer dans quelques semaines. L'identification des électeurs. Bonjour Bob Kabamba.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique. Je comprends la remarque et la question pertinente de notre auditeur. Le gouvernement se dit confiant et en même temps, on voit bien que sur le terrain et notamment à l'est du pays, la situation sécuritaire est telle que certains doutent que les électeurs vont vraiment pouvoir s'enrôler dans cette partie de la RDC.
Jean a vraiment raison parce que tout simplement, on est à moins... plus ou moins une année des élections prévues, des élections, mais on n'a toujours pas de calendrier électoral. Parce que même quand Jean y parle, il dit que comme s'il y avait un calendrier électoral alors qu'il n'y en a pas. C'est la première fois dans l'histoire du Congo qu'on est à près ou moins d'un an des élections, qu'on n'a toujours pas de calendrier électoral. Alors s'agissant des électeurs, l'enrôlement des élections, c'est qu'on est dans une dimension où on ne peut pas enrôler des électeurs dans des zones où il y a des conflits. Puisque tout simplement, l'élection se passe toujours en termes tribal, en termes de représentation territoriale. Donc, comme il y a des conflits, ça veut dire qu'il y a déplacement des populations. Quand il y a déplacement des populations, donc les populations qui déplacent, ça veut dire qu'on change l'électorat de la zone concernée. Or, les politiciens originaires de ces zones-là ne peuvent pas accepter qu'on enrôle des gens qui ne sont pas les leurs. Donc on ne peut pas avoir enrôlement dans des zones où il y a des conflits et où il y a déplacement des populations.
Et on rappelle que les combats de ces derniers jours entre l'armée et le M23 ont fait des dizaines de milliers de déplacés. Ça veut dire quoi, Bob Kabamba, qu'à votre niveau, selon votre analyse, il sera compliqué de respecter le calendrier électoral, même s'il n'existe pas? Mais enfin, il y a quand même une date clé. C'est l'obligation de tenir une élection présidentielle avant décembre 2023.
Juan, il faut être honnête. Il n'y aura pas d'élection en décembre 2023. Il faut être honnête. Parce que pour quelqu'un qui connaît les élections, qui connaît les processus électoraux, il est impossible dans les délais actuels de penser qu'il va y avoir des élections en décembre 2023. On n'a toujours pas les kits d'enrôlement, ça veut dire pour identifier les électeurs. Mmh. Ensuite, après, il faut les déployer dans toutes les zones qui concernent, donc tout qui concerne la RDC. C'est impossible dans le contexte actuel, avec les moyens de la RDC actuellement, de pouvoir déplacer, de pouvoir déployer tout le matériel dans les différentes zones, non seulement Est, mais aussi il y a des zones de conflit qui concernent à l'Ouest, Kwamout, d'autres zones qui sont compliquées. Et donc, on ne peut pas avoir des élections dans toutes ces zones-là.
Ouais. Donc, vous êtes pour le moins pessimiste, si je comprends bien, Bob Kabamba. Jean, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Pas tout à fait.
Ah bon ?
Pas tout à fait.
Allez-y.
Pas tout à fait. Je ne suis pas satisfait de la réponse.
Pourquoi ?
Parce qu'on savait déjà. Dès le début, normalement, les procédures devraient bien commencer... ou bien les procédures, voudrais-je dire, devraient commencer bien avant,
ah oui.
bien avant décembre.
Ah oui, mais ça c'est une chose, Jean, c'est une chose. Après, Bob Kabanda vous a répondu, vous avez posé une question, est-ce qu'on connaît le calendrier, quand est-ce qu'on aura une date ? Bah, il vous a donné des réponses. Après, effectivement, que vous soyez vous-même, Jean, mécontent de l'organisation, du retard accumulé par la commission électorale, ça c'est autre chose. Mais on a répondu à vos questions. Jean, en tout cas, merci infiniment. Je crois que c'était votre première participation dans l'émission.
Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour cette faveur.
Bah, écoutez, c'est normal, on est là pour ça. Et merci de votre confiance. Vous voyez, tout arrive. Certains nous envoient régulièrement des messages en disant « Je vous pose souvent des questions, mais vous ne me rappelez pas. » Bah oui, l'émission ne fait que 20 minutes. On prend 3 ou 4 questions chaque matin. Et bah, parfois, effectivement, on s'excuse. On essaie de rappeler le plus grand nombre d'entre vous. Parfois, certains ont la chance de passer 2 fois de suite dans le même mois. D'autres patients des semaines et des semaines. En tout cas, pour Jean, c'était sa première et ça s'est très bien passé. Merci à tous de votre fidélité. On a pris du temps ce matin et malheureusement, en raison des problèmes de réseau de téléphone, on va se contenter de 3 questions sur l'antenne de RFI, mais on sera de retour demain, évidemment, pour d'autres questions à la rédaction. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70 et je le répète régulièrement, c'est important que vous l'ayez en tête. On a besoin de connaître vos questions avant le début de l'émission pour contacter justement nos envoyés spéciaux. C'était le cas ce matin avec Simon Rosé à Cap Canaveral, nos correspondants, Patient Ligaudi par exemple à Kinshasa, ou les experts qui acceptent aimablement de répondre à vos questions comme Bob Kabamba à Liège en Belgique. On va dans 10 minutes nous intéresser à la Coupe du Monde de football au Qatar. On ne va pas parler vraiment football ce matin. On aura l'occasion évidemment durant les 4 prochaines semaines de vous donner régulièrement la parole pour commenter les prestations ou les couacs des différentes sélections. Non, ce matin, je voudrais qu'on s'intéresse essentiellement aux appels au boycott, des appels qui sont lancés depuis maintenant plusieurs mois et se sont accentués ces dernières semaines. Boycotter le mondial pour dénoncer notamment le non-respect des droits humains, mais aussi les conséquences écologiques de cette compétition. Alors, beaucoup d'entre vous disent, ouais, mais enfin, lancer un appel au boycott à quelques jours du coup d'envoi, c'est trop tard, vous avez raison, mais allez-vous changer ou regarder en tout cas différemment cette Coupe du Monde de football, vous qui êtes des passionnés du ballon rond, quelles conséquences ce malaise qu'on constate évidemment aura sur la compétition ? On va en parler ensemble, 33 9 693 693 70. J'ai sous les yeux par exemple le commentaire d'Abdoulaye. Il nous dit, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, ce n'est pas en boycottant qu'on va résoudre les problèmes climatiques et les droits de l'homme au Qatar. Effectivement. Et puis il y a Rama qui nous dit, elle nous écrit du Sénégal, elle nous dit, moi, pour moi, ça ne me pose aucun problème que les stades en plein air soient climatisés. Allez, on en reparle tous ensemble dans 10 minutes. À tout de suite.